Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer afin que nous ayons le temps d'avoir une discussion après. L'espace Mon Espace est heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre de l'atelier des savoirs, qui est un cycle de conférences organisé avec le laboratoire Migrinter de l'Université de Poitiers. Dans ce cycle de conférences, nous sommes heureux d'accueillir Daniel Lochac, qui est professeur émérite de droit public à l'Université Paris-Ouest Nanterre, pour une communication sur précarité et discrimination, les marqueurs par excellence de la condition des étrangers. Donc, elle va parler pendant une heure et après, nous proposons une demi-heure d'échange avec elle. J'en profite également pour vous signaler que la prochaine conférence aura lieu le 16 novembre, sera celle de Jawida Seili sur le mythe de l'égalité à l'aune de l'intersectionnalité. Voilà, je vous remercie. Bonne conférence.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous nous réunissons ce soir pour inaugurer autour de Daniel Lochac, que j'aurai l'honneur de présenter dans un instant, inaugurer une nouvelle édition de l'Atelier des savoirs que les plus fidèles d'entre vous ont précédemment connu sous le nom de l'Atelier des chercheurs, car sa programmation implique depuis l'origine des chercheurs du laboratoire Migrinter, qui est, je le rappelle, l'un des rares laboratoires en France a dédié ses travaux sur, aux migrations internationales et qui est hébergé à la Maison des sciences de l'homme de Poitiers sur le campus. Et donc avant de dire deux mots sur le programme qui nous retiendra jusqu'au mois de mars, je tiens à exprimer en mon nom et en celui de ma collègue Adelina Miranda, qui est co-organisatrice de cet atelier, je tiens donc à exprimer notre gratitude envers l'équipe de l'Espace Mendès France, qui non seulement assume toute la logistique de ces rencontres, mais nous gratifie de sa confiance et nous reçoit chaleureusement en ces lieux. Alors cette année, à l'initiative d'Adelina Miranda, l'atelier s'attachera à examiner le lien entre migration et discrimination. Et pour ce faire, nous avons donc choisi de convier des chercheurs de diverses disciplines dont les travaux parviennent à rendre intelligible un phénomène social qui revêt un caractère à la fois diffus et systémique et qui réclame, pour être appréhendé scientifiquement, des dispositifs d'enquête très variés. Certains, vous allez le voir, ayant recours à des protocoles dits quantitatifs. Je pense par exemple à l'étude Trajectoire et origine dont viendra nous parler en janvier le démographe Patrick Simon. Et d'autres, comme l'anthropologue et psychologue clinicienne Marie-Caroline Salio-Yadzmirski, que nous recevrons au mois de mars, cherche à saisir les effets plus insidieux, les effets plus subjectifs des discriminations sur les demandeurs d'asile. Et pour inaugurer ce cycle donc discrimination, nous avons souhaité écouter Daniel Lochac, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et nous sommes si heureux de recevoir ici cette éminente juriste, dont le parcours est un aiguillon pour nombre d'entre nous, soucieux de la portée civique de la recherche et du savoir. Et pour Daniel Lochac, c'est le droit qui a permis de construire des passerelles entre les mondes universitaires et associatifs, entre activités académiques et engagements militants. Car je rappelle que Daniel Lochac est professeur émérite de droit public de l'Université Paris-Nanterre, mais encore membre d'une association majeure pour la défense des droits des étrangers en France, à savoir le GISTI, groupe d'information et de soutien des immigrés, dont elle fut la présidente. Alors, on ne peut citer l'ensemble de ses titres et des fonctions occupées, mais je voudrais souligner aussi qu'elle a été vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Et de ce point de vue, elle s'inscrit dans la lignée de ces éminents juristes de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e, dont je croise les noms dans les archives et qui me fascinent doublement pour leur action exemplaire au sein de la Ligue des droits de l'homme, justement, comme pour la portée de leurs travaux théoriques sur ce qu'on appelait le droit des gens à partir de la fin du XIXe siècle, le droit des enfants, le droit des étrangers, le droit des minorités qu'ils entendaient défendre face au pouvoir de l'État Léviathan. Alors, il me semble que la conférence de Daniel Lochac, qu'elle a intitulée « Précarité et discrimination, les marqueurs par excellence de la condition des étrangers. Il me semble que cette conférence donc, est héritière de ces combats au long cours, tout en nous amenant bien sûr à réfléchir sur la spécificité des brutalités de notre époque. Merci.
Bon, merci beaucoup pour cette présentation qui m'oblige un peu trop, qui fait peser la pression quand même sur moi. Enfin, j'espère que vous ne serez pas déçus. Alors effectivement, quand on m'a demandé de parler des discriminations, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de mettre en lien la précarité et la discrimination. Alors la précarité, je reviens aux définitions, hein, qualité de ce qui est précaire, et ça vient du latin precarius, obtenu par prière, qui ne s'exerce que grâce à une autorisation révocable, ou un deuxième sens, dont l'avenir, la durée ne sont pas assurés. Et donc, mon sentiment appuyé sur du concret quand même, c'est qu'on ne saurait mieux caractériser la situation de l'étranger, et cela de tout temps. Il n'est pas membre du groupe, aujourd'hui de la nation, il ne jouit d'aucune autre protection que celle qu'on veut bien lui reconnaître, il est là provisoirement, en tout cas pour une durée dont il n'est pas maître, et il n'est jamais assuré de pouvoir rester là où il s'est installé. Parce que n'étant pas chez lui, il ne peut rester sur le territoire du pays d'accueil qu'en vertu d'une autorisation par essence précaire et révocable. Et ceci n'est pas seulement le cas des sociétés peu évoluées, puisque de nos jours encore, et j'y reviendrai, et peut-être même de façon encore plus nette que dans le passé, aucune règle du droit international n'oblige un État à accepter sur son territoire quiconque n'est pas son ressortissant, ni ne lui interdit de le refouler ou de l'expulser. Alors, tout de suite, bien sûr, quand même une nuance. Le développement du droit international a contribué à poser des limites à l'arbitraire des gouvernements. Donc, par exemple, quand je dis qu'on ne peut pas le refouler ou l'expulser, il y a quand même ce fameux principe de non-refoulement pour les demandeurs d'asile. Mais si on parle de principe de non-refoulement, bon, d'abord, si j'ai le temps, je vous montrerai comment aujourd'hui il est quand même battu en brèche au niveau européen. Mais ce principe de non-refoulement vers un pays où veut bien dire que la règle, c'est que un État peut toujours refouler ou expulser, c'est ça en tout cas le principe, un étranger. Et pourquoi ? Parce que le contrôle de l'accès au territoire est une des manifestations les plus fondamentales de la souveraineté des États, et que le droit international, et je dirais même le droit international des droits de l'homme, s'est développé sur la base de la souveraineté des États, bien plus que contre elle. Alors, c'est vrai que l'étranger n'est plus ce paria sans droit qu'il a été à certaines époques. Il n'est plus, il faudrait peut-être mettre un bémol aujourd'hui, on va y revenir, il n'est plus ce paria, cette personne qui est menacée dans sa vie et dans ses biens, mais il est toujours en sursis. Et cette situation précaire se répercute sur l'ensemble de sa situation, puisque le fait de ne jamais être sûr de pouvoir rester rend précaire l'exercice des droits qui peuvent néanmoins lui être reconnus. Alors, la discrimination maintenant, pour expliquer. Alors, la discrimination, c'est elle aussi vraiment la racine de la condition juridique des étrangers. Elle est en quelque sorte matricielle de son statut passé et présent, et sans doute à venir, car pour l'instant, on n'en est pas encore à aligner la condition des étrangers sur celle des nationaux. Alors, comment se combine-t-elle avec la précarité ? Eh bien, déjà, on peut rappeler que la précarité est par elle-même constitutive d'une discrimination, puisque là, vraiment, la différence essentielle entre un étranger et un national, vous me direz, c'est le droit de vote, mais en deçà encore du droit de vote, et de façon beaucoup plus qui est beaucoup plus frappante, en tout cas pour la vie de tous les jours, c'est le fait qu'un national ne peut jamais se voir refuser le droit de rester, alors que l'étranger le peut. Donc déjà, ça, c'est la différence fondamentale, la discrimination fondamentale entre l'étranger et le national. Et puis, à l'inverse, les aspects discriminatoires du statut confortent la précarité. La précarité du séjour, mais aussi la précarité des droits reconnus, qui ne sont jamais aussi solides que ceux reconnus aux nationaux. Et j'aurai l'occasion de le montrer. Alors, ce que je voudrais montrer ici, c'est comment les progrès, il y en a eu, réalisés sur le terrain de l'universalité des droits de l'homme et qui ont amélioré à beaucoup d'égards la situation des étrangers, ont été entravés, les progrès, par des politiques migratoires tout entières axées sur la fameuse maîtrise des flux migratoires, la lutte contre l'immigration irrégulière et plus généralement donc la répression, qui ont empêché cette évolution a priori tout à fait positive de produire tous ses effets. Et bien sûr, le sort des personnes établies en France ou dans un pays de l'Union est moins dramatique que celui des migrants à qui les États essayent à tout prix de barrer l'accès du territoire européen avec les conséquences meurtrières que l'on sait, mais pour les uns comme pour les autres, c'est la précarité qui reste la règle, précarité dans le pays qu'ils quittent, précarité pendant le voyage, précarité dans le pays de destination. Et il me semble que la fermeture des frontières, que ce soit par la politique des visas, que ce soit par les obstacles physiques placés sur la route des migrants et le cortège de mesures répressives qui va avec, rendent le droit au séjour de plus en plus fragile pour tous ceux qui souhaitent s'installer dans un pays qui n'est pas le leur. Et c'est pour ça qu'il me semble que, dans la mesure où il me restera un petit peu de temps, il me semble qu'on ne peut pas aujourd'hui évoquer la précarité sans introduire cette dimension des politiques européennes et de la politique européenne de fermeture des frontières, ce que donc j'évoquerai en fonction du temps qui restera disponible. Alors, partons quand même de la France, si vous voulez. Alors, pendant longtemps, et quand je dis pendant longtemps, je fais allusion à une époque qui n'est pas si ancienne, et je dirais que ça peut aller jusqu'aux années 60 ou 70, en gros, quand moi, j'ai commencé à faire du droit, à m'intéresser aux droits des étrangers. Et donc, pendant longtemps, il a paru naturel de priver les étrangers des droits reconnus aux nationaux. C'est-à-dire que voilà, on exposait, les étrangers, ils n'ont pas le droit de faire ça, les étrangers, ils n'ont pas le droit de faire ça, ils ont le droit de faire ça, etc. Et au fond, ni le législateur, ni le juge, ni la doctrine, hein, c'est les profs de droit qui commentent les décisions et les lois, ne s'interrogeait sur la légitimité des innombrables restrictions apportées aux droits des étrangers. Et dans ce contexte, on parle encore d'ailleurs de police des étrangers, c'est-à-dire les règles sur l'entrée, sur le séjour, sur l'expulsion. Et au fond, c'était la prérogative exclusive de l'exécutif, à peine encadrée par le législateur et à peine contrôlée par le juge. Et la prise de conscience que cette situation était peut-être contradictoire avec la prétention des droits de l'homme à l'universalité, on a fini par admettre effectivement qu'il y avait là peut-être une contradiction. Et je dirais que cette prise de conscience, moi je la ferais remonter aux années 70 et au début des années 80, qui a évidemment été favorisée par l'intensification des contrôles par les juridictions internationales, je pense au contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, par le développement du contrôle de constitutionnalité, et la condition juridique des étrangers s'en est trouvée améliorée et leur statut s'est rapproché de celui des nationaux dans un nombre croissant domaines. Par exemple, les étrangers se sont vus reconnaître au même titre que les nationaux le droit de mener une vie familiale normale, sur le fondement du préambule de 46, ou encore le droit au respect de leur vie privée et familiale sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les droits des travailleurs immigrés dans l'entreprise ont été progressivement, à partir des années 70 et jusqu'aux années, au milieu des années 80, alignés sur ceux des travailleurs français. La condition de nationalité a été abrogée pour toutes les prestations sociales, et même la liberté d'expression qui était entravée par les dispositions sur la presse étrangère ou sur les associations étrangères, ou encore par les expulsions pour motifs d'ordre public, incluant le motif politique en aval, donc a été considérablement renforcée, la liberté d'expression. Rappelez-vous quand même qu'en 1968, on a expulsé Cohn-Bendit parce qu'il se met un peu le désordre. C'est vrai qu'il se met le désordre, mais aujourd'hui, ce serait tout simplement inimaginable d'expulser quelqu'un qui manifeste, un étudiant qui manifeste avec les autres et qui n'a pas le bonheur d'être français. Bon, en plus, il était allemand aujourd'hui, ça sera encore plus difficile de l'expulser. Bon, maintenant, il est français de toute façon, mais bon, ça, c'est récent. Voilà. Donc, vous voyez, tout ce tableau magnifique que je vous dresse, eh bien, il faut quand même, je dirais, le garder en mémoire. Et en plus, ces progrès sur le plan de ce qu'on peut appeler les droits substantiels, les droits qu'on vous reconnaît, se sont accompagnés de progrès sur le plan de ce que les juristes appellent, mais l'expression est facile à comprendre, la hiérarchie des normes et du contrôle juridictionnel. Qu'est-ce que c'est que la hiérarchie des normes ? Eh bien, ça consiste à rappeler que les décrets ou les circulaires, enfin les décrets, sont en dessous des lois, que les lois sont en dessous de la Constitution, que les lois sont en dessous des conventions internationales, et que par conséquent, il y a là un certain travail. Or, il se trouve que pendant des années, le droit des étrangers était régi par de simples circulaires qui n'ont aucune valeur juridique, et c'est progressivement qu'on a voté des lois contrôlées par le Conseil constitutionnel, qu'on a fait des décrets qui pouvaient être soumis au Conseil d'État, et qu'on a rétabli une hiérarchie des normes, et que les textes qui valent pour les étrangers sont en tout cas aussi nobles, en tout cas formellement, que ceux qui régissent les gens en général, quoi. Et avec des contrôles, donc il y a un juge constitutionnel qui va contrôler la constitutionnalité des lois, il y a même une cour de Strasbourg qui va vérifier que les mesures prises contre les étrangers ne violent pas la Convention européenne des droits de l'homme. Tout ça, c'est formidable. Alors, sauf c'est formidable, en tout cas, en apparence. C'est formidable en apparence, et il y a même autre chose encore qui est formidable, mais après, je vais... Bon, après, ça sera moins formidable. C'est une stabilité accrue, reconnue aux étrangers. Dans l'entre-deux-guerres, la précarité administrative est la norme pour la main-d'œuvre immigrée, dont le droit au séjour est par essence révocable. L'étranger indésirable peut être expulsé sans autre forme de procès. Les cartes de séjour de travailleurs sont délivrées ou retirées selon le bon vouloir de l'administration en fonction de la conjoncture économique. La législation de l'après-guerre est un petit peu plus protectrice. On a des cartes d'un an, de 3 ans, de 10 ans. En principe, on ne peut pas les retirer. Et l'expulsion est entourée de quelques garanties de procédure. Mais c'est à partir de 1981 et 1984 que... Enfin, 81 qui protège contre l'éloignement les personnes qui ont des attaches en France, attaches familiales ou attaches personnelles, parce qu'elles sont là depuis longtemps. C'est la loi de 1984 sur la carte de résident qui représente une avancée considérable, c'est-à-dire que désormais, les étrangers qui sont là, même à l'époque, donc depuis plus de 3 ans, en situation régulière, ils vont obtenir une carte de résident valable 10 ans, qui permet de travailler dans toutes les professions qui ne sont pas interdites aux étrangers, mais enfin sans demander d'autorisation, qui est automatiquement renouvelable. Et c'est une véritable garantie de stabilité qui est donnée aux étrangers. Voilà, donc tout ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, sauf que l'impact de toutes ces mesures positives va être remis en cause, va être fragilisé, et pire que ça, par, comme je vous le disais, cette politique de maîtrise des flux migratoires, de lutte contre l'immigration irrégulière et qui va aboutir à la fois à une déstabilisation des étrangers et puis va aboutir à ce que tous ces droits reconnus formellement finissent par être sinon privés d'effet, du moins fragilisés et limités par d'autres choses. Alors, sur le plan déjà de la stabilité, je vous ai parlé de la loi de 84 qui avait même été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, gauche et droite réunies, et finalement on a assisté à son détricotage progressif depuis 1984, donc à partir de là, loi Pasqua de 1986, loi 1993, etc., etc., et pour arriver aux lois Sarkozy de 2003 et 2006, qui ont complètement modifié le système, c'est-à-dire qu'il y a encore des cartes de résidents en circulation, ceux qui les ont obtenus, mais aujourd'hui, les cartes délivrées sont systématiquement des cartes d'un an. Des cartes d'un an qui déstabilisent beaucoup les personnes et qui, je vais le montrer, ont aussi des conséquences sur la possibilité d'exercer réellement, réellement ces droits. Donc, je vais vous donner des exemples de ces restrictions croissantes aux droits et libertés. Alors, la liberté des étrangers de se marier est entière, ce qui n'était pas le cas encore en 1945, où quand ils n'avaient qu'un titre de séjour d'un an, ils devaient demander l'autorisation du préfet pour se marier. Bon, ça, ça a été, il a fallu attendre 81 pour que ça disparaisse. Donc, ils sont libres de se marier. Mais la crainte de la fraude a conduit à placer le mariage des étrangers sous haute surveillance dès qu'il est susceptible d'engendrer un droit au séjour, puisque les conjoints de Français obtiennent un droit au séjour. Pas une carte de résident, ça c'était en 1984, mais au moins une carte d'un an. Et s'ils sont très sages, au bout de 3 ans, s'ils ne divorcent pas, si ceci, si cela, au bout de 3 ans, ils pourront demander une carte de résident. Alors quand je vous dis qu'il est placé sous haute surveillance, ça veut dire que même les maires s'y sont mis, hein, et dès qu'il y a un mariage envisagé avec quelqu'un, soit avec un Français, soit même avec un étranger en situation régulière, si la personne est en situation irrégulière, ce dont théoriquement ils n'ont pas à connaître, eh bien ça peut déclencher des enquêtes, etc. Le droit au respect de la vie privée et familiale, lui aussi en fait, il doit se concilier. Alors, non seulement avec les impératifs d'ordre public, donc effectivement, si quelqu'un a commis des délits, il pourra malgré tout, on mettra en balance la gravité de ce qu'il a fait et la force de ses liens familiaux, mais il pourra quand même être éloigné. Mais ça, même la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que le droit à la vie familiale n'est pas un droit absolu. Mais ceci explique aussi, la fameuse maîtrise des flux migratoires explique qu'on ait apporté des restrictions croissantes au regroupement familial. J'espère que je vais tenir. Ou au droit au séjour des conjoints de Français. Le droit de ne pas être détenu arbitrairement, qui est garanti par l'article 66 de la Constitution et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'applique théoriquement à eux comme aux nationaux. Sauf que, sur simple décision administrative et en dehors de toute procédure pénale, ceux à qui l'entrée sur le territoire est refusée peuvent être maintenus en zone d'attente. Ceux qui sont en instance d'éloignement forcé peuvent être placés en rétention. Et ce qui, au départ, était considéré comme une exception, ça, c'est apparu avec la loi Bonnet en 80, la gauche s'était fortement mobilisée contre. Et lorsqu'elle est arrivée au pouvoir en 1981, elle a conservé la rétention parce qu'elle a estimé, maîtrise des flux migratoires, qu'elle n'avait pas abandonné comme objectif, qu'il fallait que la rétention, ce qu'on appelle aujourd'hui la rétention, ça ne s'appelait pas comme ça, est une condition pour avoir une effectivité des mesures d'éloignement. Or, au début, c'était 7 jours, ensuite 10 jours, ensuite 30 jours, ensuite 45 jours, et notre président de la République ou notre ministre de l'Intérieur, je ne sais plus, nous annonce que ce sera 90 jours. Et là, si vous voulez, le problème, outre que c'est un vrai problème pour les gens, c'est qu'on sait très bien que, au-delà de, enfin, je veux dire, la CIMAD et les autres associations présentes en rétention nous montrent bien qu'au-delà de 12 jours, on n'arrive plus à renvoyer les gens, parce que ça veut dire que l'obstacle, il est tel, parce qu'ils n'ont pas de laissez-passer, parce que ceci, parce que cela, l'obstacle est tel qu'on ne pourra pas. Donc ça a une espèce de dimension punitive, si vous voulez. Voilà. Et puis, un autre élément important, c'est que l'article 66 de la Constitution, ça, on en a beaucoup parlé à propos de l'état d'urgence, à propos de l'assignation à résidence, quel doit être le juge compétent pour statuer. L'article 66 de la Constitution confie au juge judiciaire la garantie de la liberté individuelle. C'est-à-dire que dès qu'il y a enfermement, il faut qu'un juge judiciaire intervienne. Ici, c'est le JLD, le juge des libertés et de la détention, dont l'intervention est bien prévue au bout de 4 jours pour la zone d'attente et au bout de 2 jours pour la rétention, 48 heures. Mais quels sont les pouvoirs de ce juge judiciaire? Ils ne sont pas très importants. Et la Cour de cassation, par exemple, vient de rappeler que le juge judiciaire, il peut, par exemple, remettre quelqu'un en liberté s'il a été placé en rétention sur la base d'un contrôle d'identité illégal. Encore faut-il prouver que le contrôle d'identité était illégal. Or, aujourd'hui, on a tellement étendu les possibilités de contrôle d'identité qu'il y en a de moins en moins qui sont illégaux. C'est normal, quand la loi permet tout, c'est plus difficile de prouver que quelque chose est illégal. Mais par exemple, la Cour de cassation vient de dire récemment que c'était déjà le cas avant, mais on pensait qu'avec la nouvelle législation, ça aurait pu changer, que le juge des libertés, enfin le JLD, n'a pas le droit de s'intéresser à la légalité de la mesure d'éloignement. Alors c'est très bizarre, soi-disant parce qu'il y a un juge administratif pour s'en occuper. Mais ça veut dire, imaginez un juge judiciaire qui constate, enfin qui voit, parce que c'est gros comme une maison, quelquefois c'est plus compliqué, mais là c'est gros comme une maison, que la mesure d'éloignement, elle est illégale. Bon, par exemple, parce qu'elle frappe quelqu'un qui est manifestement protégé contre l'éloignement. Eh bien, ce n'est pas une raison pour laquelle il peut libérer la personne. C'est quand même... Alors, vous voyez, ce juge judiciaire dont on dit que dans un état de droit, c'est très important qu'il puisse intervenir, en fait, ses pouvoirs ne sont quand même pas extrêmement importants. Je laisserai tomber la question des recours quand même. Un petit mot là-dessus. Sur le papier, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure prise par l'administration qui ne soit susceptible de recours devant, en général, le juge administratif. Il y a même des référés, hein, donc des procédures d'urgence. Mais le problème, c'est qu'on a tellement insisté sur les procédures d'urgence, je vais vous expliquer pourquoi, que du coup, il est parfois extrêmement difficile de faire le recours, car le délai est très bref, 24 heures, 48 heures, quand vous n'avez pas un avocat ou une association sous la main, que vous pouvez avoir du mal à prouver que vos liens en France sont tels qu'il y aurait une atteinte excessive à vos droits à la vie privée et familiale si on vous renvoie. Les juges eux-mêmes doivent statuer dans un délai extrêmement bref. Et finalement, c'est une justice qui n'est pas équitable. Et pourquoi est-ce qu'on veut aller si vite? Eh bien, tout simplement parce qu'on veut que tout soit réglé pendant que la personne est encore en rétention. C'est-à-dire qu'avant, si vous vouliez, vous aviez un recours contre la décision qui vous refuse le séjour. Alors, c'était les délais normaux. Hein. On a 2 mois, pour faire un recours contre une décision de l'administration. Le juge mettait un certain temps à statuer. Vous n'étiez pas protégé pendant ce temps-là, mais vous pouviez faire un recours, vous pouviez demander une procédure d'urgence parallèlement. Et puis, alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mesure d'éloignement, qui s'appelle, alors le refus de séjour, s'accompagne d'une mesure d'éloignement qu'on a joliment appelée l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. On donne toujours des mots, des noms un peu comme ça, et qui s'accompagne en général d'un placement en rétention. vraiment, c'est pas la règle absolue, mais c'est quand même très fréquent. Et du coup, vous voyez qu'il n'y a plus ce fameux recours. Maintenant, le recours, c'est 30 jours pour attaquer une mesure d'éloignement. Une mesure d'éloignement, mais un refus de séjour. Enfin, en vérité, ce que je veux vous montrer là, c'est qu'on a raccourci tous les délais de recours. On a raccourci les délais de jugement et on est dans une espèce de justice d'exception qui n'est absolument plus protectrice. Alors, venons-en aussi aux fameuses discriminations fondées sur la nationalité qui ont été supprimées pour l'accès aux prestations sociales. Donc ça, c'est formidable. Bien entendu, les étrangers qui cotisaient, ils avaient toujours droit à la sécu. Donc, maladie, maternité. Mais il y avait ce qu'on appelle des prestations non contributives. Alors, une prestation non contributive, c'est celle... aujourd'hui, ça n'a plus grand sens. C'est celles qui sont financées par l'impôt. Ça n'a plus grand sens parce qu'en fait, la Sécu, elle est aussi financée par l'impôt. Mais enfin, c'était comme ça. Il y avait les prestations contributives, donc, qui étaient la contrepartie des cotisations que vous payez. Donc, ça, c'était bon pour les étrangers. Et puis, il y avait les non contributives, et on disait, ça, c'est la solidarité. Alors, la solidarité, elle s'arrêtait aux nationaux. Par exemple, l'allocation adulte handicapé, enfin, vous voyez, toutes ces aides sociales. Bon. Et puis, le Conseil constitutionnel, en 1990, c'est la belle période, hein, on luttait contre, a dit, ah non, c'est pas possible. On ne peut pas faire de discrimination entre les étrangers, enfin, les nationaux, et les étrangers en situation régulière. Bon, donc on ne peut pas. Alors, il a fallu 8 ans pour que la loi Chevènement supprime ces discriminations. Donc aujourd'hui, on va vous dire, il n'y a pas de discrimination au niveau du droit social. Oui, il n'y a pas de discrimination, mais il n'y a pas de discrimination entre ceux qui sont... C'est d'ailleurs même pas tout à fait vrai. Mais enfin, au départ, il n'y a pas de discrimination fondée sur la nationalité. Il n'y a pas d'exclusion parce qu'on est étranger. Sauf qu'on a remplacé la condition de nationalité par une condition de régularité du séjour. Il faut savoir que depuis 1993, loi Pasqua, un étranger sans papier ne peut pas être immatriculé à la Sécu et ne peut pas évidemment toucher les prestations. Alors avant, pourtant, c'était possible. Il y avait des tas de gens qui avaient été en situation régulière à une époque et qui donc avaient leur carte de Sécu. Voilà. Donc, ça, c'est un problème. C'est d'autant plus un problème que, par le biais de ce que je vous ai rapidement expliqué, la précarité du séjour est aujourd'hui devenue la règle. Vous comprenez bien que quelqu'un qui n'a qu'une carte d'un an, qui doit être renouvelée tous les ans, n'est pas dans la même situation que celui qui a une carte de 10 ans, qui est automatiquement renouvelable. En plus, tous les titres de séjour ne confèrent pas les mêmes droits. Et là, de nouveau, vous vous apercevez que c'est juste au moment, c'est pour ça que je dis que précarité et discrimination sont liées, c'est juste au moment, enfin au moment au sens large, à l'époque où la précarité du droit au séjour est de plus en plus nette, que les prestations sociales sont réservées à ceux qui ont un certain type de titre de séjour. Et vous avez, je ne vais évidemment pas vous en faire la liste, mais un certain nombre de prestations sociales sont subordonnées à une durée minimale du titre de séjour, à un titre de séjour qui donne droit au travail, etc., etc. Donc, vous avez des droits sociaux qui sont déniés parce qu'ils ont une situation précaire par rapport au séjour et donc, ils ont du coup une situation précaire aussi par rapport à leurs droits. On peut aussi rappeler que cette insécurité du lendemain, elle a aussi d'autres conséquences. Et c'est assez facile à comprendre. Il n'y a pas que vous qui êtes dans l'insécurité quand vous avez un titre d'un an. Il y a aussi le potentiel employeur, le potentiel banquier, le potentiel assureur, le potentiel bailleur. Et donc, avec une carte d'un an renouvelable, eh bien, vous obtenez plus difficilement un travail, plus difficilement un logement, plus difficilement un prêt, plus difficilement l'assurance qui va avec le prêt. Donc ça, je pense qu'il faut aussi en avoir conscience. Le droit au logement, bien entendu, c'est un droit qui est reconnu aux étrangers. Voilà. Mais, voilà. Et je ne parle même pas, bien sûr, des discriminations dans l'accès au logement social, qui sont encore une autre question dont peut-être vous parlera Patrick Simon. Alors, à côté de ça encore, pour alourdir encore un peu plus le tableau, on assiste au développement des instruments répressifs. La politique de lutte contre l'immigration clandestine a aussi entraîné un accroissement des pouvoirs de surveillance, de contrôle et de contrainte conférés à l'administration en général et à la police en particulier, face à des étrangers qui sont considérés désormais non seulement, ça c'est très classique, c'est déjà bien sûr dans l'entre-deux-guerres, comme dangereux pour la sécurité publique, la figure de l'étranger dangereux est évidemment une constante qui renaît aujourd'hui, enfin qui renaît, qui trouve un nouvel essor aujourd'hui dans un contexte un peu plus tragique, celui des attentats, bon, encore qui sont français en général, ceux qui ont commis les attentats les plus graves. Mais ce sont aussi des clandestins, des fraudeurs en puissance, et on a donc doté la police de pouvoirs toujours plus importants, des possibilités, j'en parlais tout à l'heure, d'interpellation pour vérifier la détention d'un titre de séjour, la multiplication de fichiers interconnectés dont le nombre croissant de données, y compris biométriques, va bien au-delà de l'objectif traditionnel de sécurité publique. Sachez par exemple que dans la loi de 2016, la dernière loi en date en attendant la future loi, on a décidé, alors là aussi c'est la contrepartie d'un soi-disant progrès, je vais vous l'expliquer, on a décidé que le préfet, les préfectures, pouvaient avoir accès ou demander des informations à toute une série d'organismes, les banques, les établissements de santé, toute une série d'organismes auxquels ils peuvent demander des renseignements. L'idée, c'est pouvoir croiser des informations pour démontrer que telle ou telle personne est, par exemple, fraudeur. Voilà. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça accompagne, ce que je vous disais, un progrès apparent, c'est-à-dire que la loi de 2016... Je vous ai dit qu'on avait beaucoup critiqué le fait qu'il n'y avait plus que des titres d'un an qui étaient donnés. La loi de 2016 dit, au bout d'un an, il y a des gens à qui on pourra donner un titre de 3 ans. Formidable. Sauf que, la contrepartie, c'est qu'à tout moment, l'intéressé pourra être mis en demeure, devra pouvoir être en mesure de prouver qu'il remplit toujours les conditions pour avoir ce titre. Vous voyez donc une espèce d'épée de Damoclès. Et pour prouver que les gens n'ont plus, ne remplissent plus les conditions, eh bien je pense que l'accès aux fichiers, ou en tout cas aux informations détenues par le fichier, dans les fichiers, seront intéressantes. Il faut aussi parler des enquêtes policières au domicile, pour repérer la présence de membres de famille en situation irrégulière, soit à l'inverse, pour vérifier la réalité de la vie commune entre conjoints, puisque toutes les phrases du CESEDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, on vous dit, dès qu'il s'agit de conjoints et de mariage, à condition que la vie commune soit toujours, qu'il y ait toujours vie commune, tout le temps, ça revient tout le temps. Et par exemple, crainte de la fraude, les conjoints de Français, dans le temps, ils pouvaient demander la nationalité française immédiatement. Aujourd'hui, il faut qu'ils attendent 3 ans de mariage. Finalement, parfois, c'est plus facile de demander la naturalisation. Parce qu'en plus, si jamais vous divorcez, au bout de 3, enfin, dans l'année qui suit, eh bien, c'est un indice que vous avez que vous avez fraudé, ou enfin que le mariage n'était pas un vrai mariage. Et dans le temps, on disait, sauf si des enfants sont nés du mariage. Là, on dit même plus ça. Donc, à la limite, même si vous avez eu des enfants, en principe, le fait que vous vous soyez séparés peut être un indice de fraude. Et puis, je voudrais terminer cette énumération un peu tragique par la place attribuée à l'outil pénal dans la gestion de l'immigration, qui se traduit par la multiplication des incriminations, donc des délits, si vous voulez, et la sévérité croissante des peines. Alors, à titre d'exemple, hein, parce que la liste des délits est interminable, on punit alors, d'un an de prison et 3 ans d'interdiction du territoire français, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de revenir pendant 3 ans, hein, l'entrée irrégulière, ou le maintien irrégulier sur le territoire alors qu'on vous a demandé de partir. 3 ans de prison, 10 ans d'ITF, interdiction du territoire, le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire à une mesure d'éloignement. Par exemple, si vous refusez de présenter vos papiers, si vous refusez de monter dans l'avion, bah, ce délit, il est constitué. Alors, je ne dis pas que tout le monde est condamné à 3 ans de prison, mais ce qui est sûr, qu'il y a des ITF, et les ITF, ça veut dire que vous ne pouvez plus revenir. Et attention, quand vous avez une ITF, une interdiction du territoire français, ça veut dire aussi, à cause de Schengen, que vous ne pouvez pas non plus, vous êtes inscrit dans le fameux SIS, système d'information Schengen, et vous ne pouvez pas non plus revenir dans un autre État européen. Alors, un délit qui est très connu aujourd'hui, c'est les 5 ans de prison pour l'aide même bénévole à l'entrée ou au séjour irrégulier. Bon, on en a le fameux délit de solidarité. Infraction prévue par le Code du travail pour l'emploi d'étrangers dépourvus d'autorisation de travail. Et puis, dans l'arsenal pénal, vous trouvez aussi le mariage blanc. Et puis une invention de la loi, je ne sais plus si c'était la loi Besson ou Hortefeux, le mariage gris. Alors le mariage blanc, on voit ce que c'est, vous n'aviez pas... Non, ce n'est pas marqué comme ça dans la loi, mais on l'a présenté comme ça. Le mariage gris, c'est le conjoint étranger qui a trompé son conjoint français, ou son conjoint pas français, mais enfin la personne qui était susceptible de lui donner un droit au séjour, sur ses véritables intentions. Alors vous voyez tout de suite le truc, là, le méchant étranger qui trompe la jeune française un peu comme ça, en lui disant « je t'aime », et il se marie, et en fait, voilà. Alors le problème, c'est que bien entendu, ceci ne peut apparaître que quand il y a un conflit dans le couple. Je veux dire, après, donc sur une dénonciation, etc. Bon, je ne pense pas que ça ait beaucoup fonctionné, mais vous voyez jusqu'où ça va. Sur le mariage blanc, il y a quand même quelque chose à dire. Parce que il y a plein de mariages blancs. Le mariage blanc le plus connu, c'est celui entre fonctionnaires qui permet le rapprochement des conjoints. Puisque dans la fonction publique, d'ailleurs, vous avez peut-être vu comment il s'appelle notre ministre de l'Intérieur là, que la femme du ministre de l'Intérieur Colomb, Madame Colomb en a bénéficié puisqu'elle était au tribunal administratif de Toulon et qu'elle a réussi à se faire nommer au tribunal administratif de Paris, ce qui pose quand même un petit problème parce que quand même le tribunal administratif de Paris, il est compétent pour juger tout ce que fait de mal le ministre de l'Intérieur. Bon, enfin, peu importe, ça c'est la parenthèse. Ce que je veux dire, mais là, en plus, je ne dis pas que c'est un mariage blanc. Ce que je veux dire, c'est que le mariage blanc, c'est bien sûr une espèce de fraude au mariage, mais qui est très répandu chez les fonctionnaires, ou qu'il était, ou qui doit l'être encore, parce que ça permet d'obtenir un poste plus proche de là où on aimerait bien habiter. Mais là, c'est pas puni pénalement, le mariage blanc, pour les fonctionnaires. Les seuls pour qui c'est puni pénalement, ce sont les étrangers. Donc, vous voyez que là... Ouais. Alors, il y a autre chose sur lequel je voudrais finir ici d'attirer votre attention, avant de dire un petit mot peut-être de l'Europe. C'est qu'il y a eu un transfert des expulsions, de la procédure d'expulsion à l'interdiction du territoire français. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. L'expulsion, c'est un truc qui existe de tout temps. Alors, même si... D'ailleurs, ce qu'ils veulent faire là maintenant, les gens qui nous gouvernent, en fait, ils parlent d'expulsion, mais non, en fait, c'est des OQTF, c'est des obligations de quitter le territoire français, hein, exécutoires par la force. Mais bon, Colomb, il a parlé d'expulsion comme ça. Bon, c'est vrai que pour le peuple, ça on comprend mieux, parce que OQTF, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Bref, l'expulsion, c'est encore une mesure qui vise, qui décide qu'un étranger doit quitter le territoire français parce qu'il représente une menace grave pour l'ordre public. Et donc les expulsions, il y en avait des tonnes dans l'entre-deux-guerres, bon, je vous ai dit encore qu'en 68, on en a expulsé plein, y compris Cohn-Bendit, et puis, donc il y en avait à peu près 3 000, 3 500 par an, bon, c'est pas énorme, enfin c'est quand même pas mal. Et puis est arrivée la gauche en 81, et en 81, on a, comme je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, prévu toute une série de protections contre l'expulsion. Et notamment, les mineurs ne peuvent plus aujourd'hui être expulsés, alors que c'était la norme, c'était très fréquent. Tous les jeunes un peu remuants qui n'étaient pas français, qui n'avaient pas la nationalité française, même s'ils étaient là depuis quasiment leur naissance, eh bien, on n'hésitait pas à les expulser. Donc, il y a eu un gros progrès. Les mineurs sont protégés, ils le sont toujours. Les conjoints de Français, les parents d'enfants français, ceux qui sont là depuis plus de 15 ans, il y avait toute une série de catégories protégées. Elles le sont encore plus ou moins, mais je ne vais pas y venir. Le fait est qu'aujourd'hui, des expulsions, je ne sais plus, je n'ai pas les chiffres récents, mais enfin, il y en a, à mon avis, je dirais, ça se compte à peine par centaines, je dirais, des expulsions. Des expulsions. Je ne parle pas des OQTF hein, et de toutes ces mesures, voilà. Mais les vraies expulsions contre des délinquants ou des délinquants qui ont été condamnés, pour bien faire la différence avec ce qu'on nous propose maintenant, et éventuellement des gens qui n'ont pas été condamnés, mais qui représentent une menace grave. Et aujourd'hui, en fait, c'est essentiellement la menace terroriste et islamiste. Ce sont les gens qui sont expulsés sans procès. Hein. Mais enfin, ça n'en fait pas beaucoup. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, curieusement, depuis ce qu'on appelle le nouveau code pénal qui est entré en vigueur, j'ai déjà oublié quand, enfin, en 95, un truc comme ça, s'il y a des juristes dans la salle, ils me le rediront, qui est un code en principe libéral, puisqu'il est sous l'auspice de Badinter, eh bien, ce code pénal a multiplié les possibilités de compléter, donc de peine, enfin, c'est vraiment compléter, puisque ce sont des peines complémentaires, les peines de prison, d'amende ou de prison, de les compléter par une interdiction du territoire français, alors qu'il peut aller de 1 an à 3 ans, 10 ans, il y en a même qui sont définitifs, enfin pour les délits les plus graves. Et alors ce qui est très curieux, c'est que la liste des délits pour lesquels on peut prononcer une interdiction du territoire français, elle est énorme. Il y en a évidemment, il y a les crimes contre l'humanité, mais enfin bon, ça c'est juste pour amuser la galerie, parce que à part Papon, on n'a jamais condamné en France pour crime contre l'humanité. Bon, voilà. De toute façon, Papon, il n'était pas expulsable, il n'était pas ITFable, puisqu'il était français. Donc, voilà. Donc, c'est juste. Mais il y a d'autres délits, usage de faux, enfin, vous voyez, des trucs vraiment bas de gamme, si j'ose dire. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que les juges, qui ne sont jamais obligés de prononcer, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et moi, alors, avec l'inconvénient que la mesure d'expulsion, on peut toujours demander la première chose, c'est que la mesure d'expulsion, on peut toujours demander au préfet ou au ministre de l'Intérieur, selon l'autorité qui l'a prononcée, de l'abroger, pour des bonnes raisons, en disant la personne, maintenant, elle est sympa, il n'y a plus de risque, etc., etc. Et ça permet une régularisation, par exemple. Alors que l'ITF, l'interdiction du territoire français, eh bien, personne ne peut revenir dessus, sauf le juge. Donc on peut demander un relèvement d'ITF, il faut passer par un avocat, les juges, ils n'aiment pas trop. Bref, l'ITF, ça vous colle à la peau d'une façon bien plus grave que l'expulsion. Et ça m'inspire donc encore une autre remarque, c'est que pendant tout l'avant-guerre, les associations, alors la Ligue des droits de l'homme notamment, et après-guerre encore le MRAP, avaient comme revendication de remplacer l'expulsion, qui était l'expression de l'arbitraire administratif, par un jugement, que c'était les juges qui devaient prononcer l'expulsion. Eh bien, vous voyez que ce n'est pas forcément formidable, car les juges eux-mêmes, ils sont eux-mêmes, alors il y en a qui disent qu'ils ne sont pas indépendants, ils sont vendus, pas du tout, ils ne sont pas vendus, les juges, simplement, ils pensent comme l'opinion dominante. Et ils sont, voilà. Et De ce fait, aujourd'hui, vous avez un nombre d'interdictions du territoire français qui est, je ne sais plus de combien. Alors, il y en a qui sont pour des délits de séjour, comme j'ai cité tout à l'heure, et d'autres qui sont pour des délits dits de droit commun. Et on retombe ici dans un petit peu ce qu'on pourrait appeler, pour le coup, la double peine. Alors, je ne voudrais quand même pas tout à fait terminer sans montrer comment la tendance qu'on vient de décrire, enfin, que je viens de décrire au niveau national, elle est perceptible aussi au niveau de la politique d'immigration et d'asile menée au niveau de l'Union européenne, où on constate, je dirais, le même contraste entre les principes proclamés et les atteintes aux droits fondamentaux des migrants engendrées par cette politique. Donc, vous savez sans doute que c'est à partir du traité d'Amsterdam, 99, que la politique d'immigration et d'asile, alors déjà, avoir dit politique d'immigration et d'asile, vous voyez, ça pouvait être contestable, mais enfin bon, c'est comme ça qu'on dit, la politique d'immigration et d'asile est devenue une compétence explicite de l'Union européenne. Et au sommet de Tampere, en 1999, on avait beaucoup insisté sur le fait que la liberté de circuler librement dans toute l'Union ne devait pas être une prérogative des seuls citoyens européens et qu'on devait donc l'accorder aussi aux ressortissants de longue durée, aux ressortissants des pays tiers. Alors je vous dis tout de suite qu'il y a eu effectivement une directive sur les ressortissants de longue durée, mais qui ne leur reconnaît absolument pas le droit, ce droit-là, le droit d'aller essayer de chercher du travail ailleurs. Oui, on les dispense de visa, mais par exemple, quelqu'un, un Turc installé en Allemagne qui veut venir en France, il n'est pas du tout soumis au même régime que l'Allemand qui veut venir en France, parce que la situation de l'emploi lui sera, comme on dit, opposable, hein, vous savez peut-être, bon, j'en ai pas parlé, mais enfin, c'est aussi une discrimination entre les Français et les étrangers, c'est que si les étrangers ont les mêmes droits au regard du Code du travail, c'est à condition d'avoir quand même obtenu d'abord une autorisation de travail. Et cette autorisation de travail, elle n'est donnée qu'au regard de la situation de l'emploi dans la région et dans la branche. Alors ce que je vous dis là est largement atténué pour ceux qui détiennent, enfin, par le fait que certaines cartes de séjour, comme la carte d'un an vie privée familiale ou la carte de résident, valent autorisation, hein, mais c'est quand même ça la règle. Et mon Turc installé en Allemagne depuis 20 ans, qui voudrait essayer de venir travailler en France, bon, on se demande pourquoi, vous me direz, alors vous pouvez prendre le cas d'un Espagnol, d'un étranger espagnol, un étranger installé en Espagne, c'est peut-être plus vraisemblable, enfin bon, peu importe, mon Turc qui peut peut-être quand même vouloir venir en France, eh bien, il faudra qu'il demande une autorisation de travail. Donc ça n'a pas été respecté. On parlait d'une union pleinement attachée au respect des obligations de la Convention de Genève et on parlait d'intégration dans nos sociétés des ressortissants des pays tiers qui résident légalement dans l'Union. En fait, aucune initiative n'a été prise en ce sens et en fait, dès le sommet de Séville en 2002, qui fait suite évidemment aux attentats de septembre 2001, eh bien, la perspective va complètement changer et je dirais que les principales préoccupations de l'Union européenne, c'est de savoir comment fermer le plus étanchement, on dit étanchement, de la façon la plus étanche possible, ces frontières. Et à chaque fois qu'un texte est pris en ce sens, on commence bien entendu, c'est l'hommage du vice à la vertu, on commence par rappeler que l'attachement de l'Union aux droits fondamentaux. Alors, quelques éléments, et si j'éprouve le besoin de parler un tout petit peu de ça, c'est que je vous ai dit tout à l'heure en commençant que qu'il y avait quand même une différence entre le vrai passé notre monde civilisé, c'est que dans le temps, l'étranger était vraiment un paria sans droit et qu'aujourd'hui, l'étranger n'est pas un paria sans droit, qu'il n'est plus, bien sûr, il est incertain, il est en sursis, il est dans l'insécurité juridique, mais il n'est pas soumis, il n'est pas, comment dirais-je, il ne peut pas être mis en cause dans sa sécurité physique ou ses biens. Or, justement, ce qui est assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, les migrants qui tentent de venir en Europe, ils sont bien menacés dans leur personne. Ils sont menacés physiquement, ils sont menacés, enfin, disons que leurs droits fondamentaux sont de plus en plus restreints, que l'enfermement est devenu la norme. Je vous avais déjà dit quelle était la norme en France, mais en fait, les autres pays de l'Union européenne pratiquent aussi l'enfermement. Et d'ailleurs, la directive retour, qui est le texte commun pour tous les pays membres de l'Union, prévoit que pour assurer l'effectivité de la décision de retour, on peut maintenir un étranger, on peut détenir un étranger, alors exceptionnellement bien sûr, mais jusqu'à 18 mois. Alors évidemment, après, les gens qui nous gouvernent vont dire, mais regardez, la directive retour, elle permet 18 mois, nous, on va passer de 45 à 90 jours, c'est rien du tout. Voilà, donc l'enfermement est devenu la norme, et surtout, ce qui est plus grave, enfin, ce qui est plus grave, encore plus grave, c'est que, bon, chez nous, ça se passe moyennement bien, mais enfin, il y a encore des juges qui mettent leur nez dedans, il y a des associations quand même qui mettent, bon, enfin... Il y a un semblant quand même d'état de droit. Mais le problème, c'est qu'avec ce qu'on appelle l'externalisation de la politique d'immigration et d'asile, que je vais vous définir en quelques mots, vous avez des phénomènes beaucoup plus graves. C'est-à-dire que dans tous les pays du pourtour européen, pourtour méditerranéen, mais Biélorussie, etc., etc., il existe des camps où les conditions sont évidemment sans commune mesure avec celles qui peuvent être dans des centres de rétention, même si on dit beaucoup que dans les centres de rétention, tout, bien entendu, ne va pas pour le mieux. Voilà. Donc, vous avez ce phénomène d'enfermement qui est devenu vraiment un élément fondamental de la condition des migrants. Alors, l'externalisation, effectivement, vous savez ce qu'on appelle l'externalisation, c'est un mot qui a été forgé au départ par des chercheurs, je dirais notamment Olivier Clochard, hein, pour ne pas le nommer, et le réseau Migre-Europe, donc des chercheurs, des militants. Et ce mot externalisation, il est très intéressant parce qu'il renvoie à la fois à une délocalisation des contrôles. Voilà, on va faire les contrôles le plus en amont possible. Et disons, à cet égard, le projet, à mon avis, de Macron de faire des centres d'accueil où on pourra vérifier que les gens entrent bien dans les critères de la Convention de Genève, et donc on va faire le contrôle là-bas. Et après, ils pourront venir sans risquer leur vie, puisqu'on les laissera venir en avion. Ça, c'est un grand fantasme de tous les Européens, parce que comme ça, eh bien, vous limitez, bien entendu, les flux, et finalement, que ce soit des flux de demandeurs d'asile ou des flux de migrants économiques, finalement, il y en a, on ne veut en fait ni les uns ni les autres. Et donc, externalisation, ça veut dire délocalisation, mais ça veut dire aussi qu'on va confier à autrui le soin de faire la politique, d'effectuer les contrôles et de faire la politique de l'Union européenne. Et alors on va confier ça notamment aux pays tiers. Le Maroc, par exemple, aujourd'hui, est lui-même confronté d'ailleurs à un afflux de migrants subsahariens parce qu'on lui a demandé de ne pas les laisser passer vers l'Europe. Hein. Donc vous avez toute une série de pays à qui on demande de ne pas laisser passer les gens pour qu'ils viennent jusqu'en Europe. La Turquie, c'est ce qu'on a fait avec la Turquie. Hein. On lui a dit retenez-les, hein, on va vous donner plein d'argent, on va vous donner plein de choses. Et le problème, c'est que maintenant, on n'ose même plus critiquer Erdogan, parce qu'on a peur que sinon il relâche les vannes. Hein. Donc il y a ça. Aujourd'hui, on traite avec l'Éthiopie, on traite avec le Soudan. Et c'est quand même paradoxal, parce qu'on leur demande à eux de retenir les flux migratoires, alors que ce sont des pays qui sont par ailleurs les plus gros fournisseurs de demandeurs d'asile. Donc vous voyez, et cette externalisation fait donc que ce sont dans ces pays-là que maintenant on a aussi des camps de, où les migrants sont retenus. Et bien entendu, bon, maintenant, c'est quand même, on en parle beaucoup, ce qui se passe, en Libye, mais ça, on le sait depuis très longtemps, est épouvantable. C'était comme ça déjà du temps de Kadhafi. Alors, on discutait avec Kadhafi, on traitait avec lui, exactement comme on a traité avec la Turquie de Erdogan. Bon, toute proportion gardée, parce que je pense qu'au départ, Kadhafi, c'était encore pire que Erdogan, que la Turquie. Mais enfin, bon, maintenant, ça, voilà. Et en fait... il y avait des tas d'accords avec Kadhafi, et quand il trouvait que ça n'allait pas, hop, il lâchait les gens, les migrants, et qui arrivaient à Lampedusa. Et vous avez peut-être vu récemment que l'Italie est accusée de traiter avec les mafias de passeurs pour qu'ils ne laissent pas passer les gens. Donc, eux restent en Libye à se faire massacrer. À se faire massacrer ou maltraiter, parce que ce qui se passe dans les camps, c'est vraiment des traitements inhumains et dégradants, voire de la torture, et traite aussi avec les gardes frontières pour aussi, il leur donne de l'argent pour qu'ils ne laissent pas passer les migrants. Donc l'Europe est vraiment prête à tout pour que les gens n'arrivent pas aux frontières, et les conséquences, je terminerai par là, mais vous les connaissez, hein, c'est les traitements inhumains ou dégradants. C'est les atteintes au droit d'asile, puisque les gens ne peuvent pas passer. C'est l'enfermement, je viens d'en parler. Et puis, c'est le droit à la vie, qui est quand même un des droits les plus fondamentaux, puisque aujourd'hui, on reconnaît quand même que le droit à la vie est menacé avec les milliers de morts, qui meurent en fait parce qu'on on ne veut surtout pas que les gens arrivent jusqu'aux frontières. De l'Europe. Et pour conclure sur une note toujours aussi optimiste, je dirais que la précarité et la discrimination, ce sont vraiment ces deux éléments avec lesquels on peut analyser non seulement la condition des étrangers, comme je l'ai exposé au départ, mais aussi, je dirais, la division aujourd'hui du monde en deux humanités distinctes. Ceux qui ont la chance de naître dans des pays où la démocratie est stabilisée, où les droits de l'homme sont bon an, mal an, effectifs pour le plus grand nombre, où les gens vivent en paix, mangent à leur faim, sont soignés, qui peuvent se déplacer librement dans le monde entier, et de l'autre, ceux qui sont nés dans des pays qui sont encore loin d'être, comme le disait joliment la déclaration de 48, libérés de la terreur et de la misère, qui sont assignés à résidence, qui se voient dénier la liberté de circulation et ne peuvent se déplacer qu'en risquant leur intégrité physique et leur vie. Et donc, il me semble que là encore, si vous voulez, précarité et discrimination, on est, je dirais, hélas, en plein dedans. Voilà.
Alors, je vous propose un temps de questions. Surtout, attendez d'avoir le micro, parce qu'en fait, la conférence est enregistrée, c'est pour ça. Donc, qui a une question, remarque
Alors, merci beaucoup pour cet exposé qui nous ouvre plein de perspectives, vraiment des réflexions, surtout quand on n'est pas juriste. Et là, on sent vraiment l'importance, quand on travaille sur l'immigration, de voir cette articulation avec les droits. Et je pense que Migrantaire, de plus en plus, le fait par ailleurs, même dans la formation, etc. Je voulais, en même temps, je n'ai pas un commentaire, mais une provocation sur laquelle j'aimerais vous entendre. Vous avez vraiment bien démontré comment ces progrès dans la sphère du droit est apparent. Et je voudrais prendre une phrase que vous avez dit qui m'a beaucoup frappée. À un certain moment, vous dites... Les juges pensent comme l'opinion dominante. Je me suis dit, est-ce que l'application du droit n'agit pas comme le veut l'opinion dominante ? Et vous le montrez très bien dans la deuxième partie de votre exposé, donc la sphère du droit et l'articulation avec la sphère politique. Et je pense que là, vraiment, il y a une réflexion à faire sur cette articulation. Est-ce que c'est les droits qui sont dominés par les politiques ? Est-ce que c'est vraiment que juste dans la pratique ? même on le voit dans la législation, comme elle est conçue et comme elle est appliquée. Oui. Voilà. Donc,
vous voulez que je réponde tout de suite? Oui. Oui. Je sais pas si... Alors, oui, enfin, ça sera assez simple d'ailleurs. En fait, je me fonde sur l'évolution de la jurisprudence. Hein, c'était, j'invente pas. Le Conseil constitutionnel, auquel je ne fais plus aucune... Enfin, j'ai rarement fait confiance, mais auquel je ne fais aucune confiance pour protéger nos droits et libertés. Au départ, c'est lui qui a dit qu'on pouvait enfermer un étranger, mais à condition que le juge intervienne dans le plus court délai possible. Et il avait dit 24 heures, c'est bien. Et il faut aussi que la durée d'enfermement soit limitée. 7 jours, c'est bien. Ensuite, on a dit 48 heures. Il a dit, bon, ça peut aller. Ensuite, on a dit, on va les laisser 10 jours. Alors, dans un premier temps, il a dit non, 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 non. Et dans un deuxième temps, il a dit oui. Ensuite, on lui a dit 20 jours. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a dit, ça c'était extraordinaire, que ce juge chargé de contrôler les libertés, au début, il avait le choix entre trois solutions. En 81, quand la gauche a voulu montrer que c'était propre ce qu'elle faisait. Première solution, remettre la personne en liberté. Deuxième solution, l'assigner à résidence. À titre exceptionnel, prolonger la rétention. Bon, l'exception est devenue la norme. Mais c'était quand même dans le texte comme ça. Et ensuite, avec la loi Pasqua, le juge n'a que deux solutions. Soit, si l'étranger a des garanties de représentation, donc un passeport, etc., l'assigner à résidence, et sinon, prolonger la rétention. À aucun moment, c'est marqué qu'il ne peut le remettre en liberté. Alors, c'est hallucinant. Et alors, la Cour de cassation a quand même dit que s'il y avait des irrégularités de procédure, le juge pouvait remettre en liberté. Mais le législateur ne l'a pas prévu. Eh bien, le Conseil constitutionnel, ça ne l'a pas gêné. Et quand c'est passé à 35 jours et à 45 jours, eh bien, le Conseil constitutionnel, il a encore inventé un raisonnement pour dire qu'il n'y a pas de problème. Le Conseil d'État, il a aussi, c'est lui qui avait en 1978, dans un arrêt où le Gisti assez récent, enfin qui venait de naître il n'y a pas longtemps, était requérant, donc c'était lui qui avait fait un recours contre le décret qui critiquait sur le regroupement familial. On venait de mettre en place le regroupement familial et un an plus tard, en 77, on décide que ne pourront obtenir le regroupement familial, donc le droit de venir en France rejoindre la personne, que ceux qui s'engagent à ne pas travailler. Le Conseil d'État annule en disant atteinte au droit de mener une vie familiale normale. Et c'est un arrêt capital parce que c'est là qu'il dit les étrangers ont aussi le droit de mener une vie familiale normale, donc de vivre en famille et d'avoir des ressources suffisantes, parce que c'était ça aussi. On n'empêchait pas le conjoint de venir. On disait juste, si vous venez, vous ne travaillerez pas. Donc, il annule. Formidable. Mais ensuite, à chaque fois qu'il y a eu des restrictions apportées au droit de vivre en famille, que ce soit par la loi, et là, le Conseil constitutionnel a laissé passer, ou que ce soit par des décrets, et le Conseil d'État a laissé passer, eh bien, c'est resté comme ça. Enfin, ils ont laissé passer. Donc, ce que je veux dire, c'est que le juge ne fait pas vraiment un rempart à ces atteintes au droit. Parce que le droit, c'est de l'interprétation, bien entendu. Surtout quand on vous demande de dire que telle disposition de la loi n'est pas conforme à la Constitution. Vous savez bien que dans la Constitution, il n'y a rien. Hein. Donc, je veux dire, tout ça, c'est du... Non, mais il n'y a rien dans la Constitution. Il y a l'article 60. Enfin, il y a le principe d'égalité. Alors, oui, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer la Cour européenne des droits de l'homme, qui a quand même beaucoup fait pour les droits des étrangers, on la sent vulnérable cette idée que, elle l'a dit d'ailleurs, que la volonté de maîtrise, l'objectif de maîtrise des flux migratoires est un objectif légitime qui justifie des restrictions aux droits des étrangers. Hein. On l'a même vu, alors elle est revenue un tout petit peu là-dessus, sur un truc qui est absolument, qui est un pur scandale. Vous avez dans la Convention un article 3 le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains, enfin à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Et contrairement au droit à la vie familiale, qui est un droit pour lequel la Convention prévoit elle-même qu'il peut être, combiné et donc limité par d'autres préoccupations, celles que je viens d'évoquer, l'ordre public ou la maîtrise des flux migratoires, l'article 3, comme on dit dans ce vocabulaire un peu bizarroïde et pas très grammaticalement correct, il est indérogeable. Il est indérogeable, c'est-à-dire que quelle que soit la gravité des faits commis, d'ailleurs elle l'a dit, même le pire des terroristes, on n'a pas le droit de le renvoyer là où il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Et ça, elle l'a dit. Et puis un jour, sont venues la question des étrangers malades. Et les étrangers malades, donc il y a une jurisprudence de la Cour qui estime qu'un étranger très malade, s'il ne peut pas trouver des traitements, le pronostic vital engagé, etc., s'il ne peut pas trouver chez lui, là où on le renvoie, les traitements adaptés, eh bien, atteinte à l'article 3. Et puis un jour, elle a changé d'avis. Et ça, je dis que c'est très grave, parce qu'on est dans de l'article 3, c'est-à-dire un droit indérogeable. Et là, en fait, elle a estimé qu'on ne pouvait pas obliger, en gros, les pays européens à soigner toute la misère du monde. Ce n'était pas dit comme ça, mais c'était on ne peut pas obliger les pays européens à, qui ont des budgets de santé, on ne peut pas les obliger à ça. Ça a été un vrai scandale dans le monde des gens qui s'intéressent un peu à ces questions. Et là, récemment, elle a un tout petit peu redressé la barque en disant que quand même... Bon, vous voyez, mais ça, je trouve ça terrible parce que la Cour européenne des droits de l'homme elle-même soit sensible à ces trucs-là, c'est important. Et, mais plus généralement, si vous voulez, on pourrait le démontrer sur d'autres questions que le droit des étrangers. Sur le foulard, par exemple, en 89, le Conseil d'État avait dit non, le foulard ne peut pas être interdit dans les lycées parce que, à condition, évidemment, sauf s'il est porté de façon comme ci, comme ça, mais enfin, quand même, le principe, c'est que la liberté de conscience et tout, voilà. Et le principe de laïcité n'oblige pas à ça. Et en 2004, alors c'est vrai qu'il y avait une loi, mais le Conseil d'État peut faire prévaloir une convention sur une loi. Eh bien, il a estimé que, non, c'était bien, le principe de laïcité n'avait pas été... Enfin, bon, ce que je veux dire, c'est que les juges, c'est encore plus net pour le Conseil constitutionnel, qui est quand même un juge très politique, mais tous les juges sont sensibles à ça. Quand vous voyez, moi j'ai étudié... La jurisprudence antisémite sous Vichy, ils ont appliqué, ils ont été sympas en général. Ils ont dit, là, il peut prouver quand même qu'il n'est pas juif. Mais enfin, ils ont appliqué, et quand je vous parlais tout à l'heure des juges judiciaires qui condamnent et qui mettent des ITF, moi, je me souviens avoir fait des interventions à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, devant des futurs juges, et je leur disais, quand même. Alors, ils me disent... Ouais, mais ils avaient fait des stages déjà en juridiction. Ouais, mais de toute façon, c'est pas exécuté. Ah ouais, d'accord, c'est pas exécuté, mais qu'est-ce que devient quelqu'un qui a une ITF Enfin, vous voyez, Donc, on a d'ailleurs la dernière journée d'études du JISTI l'année dernière, elle va paraître bientôt en livre. C'était sur l'état de droit, mais en s'intéressant spécialement aux juges. Puisque le juge est quand même, en principe, vous le savez, le maillon essentiel d'un état de droit qui va permettre que la hiérarchie des normes soit respectée, que les violations du droit soient punies ou censurées. Et en fait, ce qu'on montre, on s'est interrogé sur la marge de manœuvre des juges et pourquoi ils n'utilisent pas cette marge de manœuvre. Parce que le droit, c'est de l'interprétation. Enfin bref, j'ai été un peu longue, mais je pense que les juges, je vous dis, j'ai une copine, elle dit ils sont vendus. Je dis ils sont pas du tout vendus, ils pensent comme l'opinion dominante.
Merci pour votre intervention. Alors moi je voulais savoir si vous voyez un petit peu d'optimisme avec tout ce qui est initiative citoyenne et toutes les associations, si par rapport à ça on pouvait... voir un peu d'espoir.
Non, alors c'est vrai que... Non, mais là où vous avez raison, c'est que c'est vrai quand même qu'il y a des mobilisations fortes. Alors, les unes je dirais, humanitaire au départ, mais même ceux qui font de l'humanitaire, c'est-à-dire qui juste viennent en aide, donnent à manger, etc., ils se rendent assez vite compte, surtout en plus quand ils sont poursuivis pour aide, mais même, ils se rendent assez vite compte, je pense, qu'il y a un vrai problème politique là-dessous. Et c'est vrai que là où vous avez raison, c'est que, bon, il y a le logistique, mais enfin, ce qu'on voit quand même, c'est que là, on veut faire des... Il y a une mobilisation, là, on voudrait faire des états généraux de la politique migratoire. Et ce qu'on veut, c'est mobiliser. C'est mobiliser, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'aux quatre coins du territoire français, il y a des mobilisations. À La Roya, il y a des choses qui se font, à Calais, partout, à Paris, et indépendamment même, et même sur le terrain. Il y a vraiment des mobilisations importantes qui dépassent largement les associations estampillées ou labellisées comme le GISTI, la Ligue des droits de l'homme, le BRAP, la CIMAD, la FASTI, etc. Et ça, c'est très positif, mais en même temps, on ne voit pas bien, on n'a pas l'impression que ça peut déboucher sur un changement des mentalités. Ce qu'on constate, nous, depuis des années et des années, c'est que les politiques, ils sont tétanisés. Ce que je disais tout à l'heure, on en parlait. À une époque, les Verts et le Parti communiste, ils avaient des positions super, et on allait parler avec eux, etc., etc. Bon, quand un parti s'approche du pouvoir, ou, alors c'est pas le cas du PC pour l'instant, enfin, il n'existe plus, c'est ça le problème. Comment dirais-je, a des perspectives d'arriver au pouvoir, du coup, le discours change complètement. Mon interprétation, enfin, mon analyse, c'est qu'à partir de 1983, donc la gauche est arrivée au pouvoir en 81, elle a fait beaucoup de choses très positives, mais elle a conservé l'idée qu'il fallait maîtriser les flux migratoires. Et ça, ça a été le vrai problème. Mais elle a, à partir de 83, qu'est-ce qui s'est passé en 83 ? Le Front National à Dreux. Et du coup, alors, c'est le Front National, c'est des mauvaises réponses aux bonnes questions, nous dit notre... c'était le Premier ministre d'alors. Ensuite, Et si vous voulez, ce qui est très net, c'est que la droite, et ça s'est vu au moment de la discussion sur le code de la nationalité en 86, la droite se cale sur l'extrême droite et la gauche se cale sur la droite parce qu'elle veut montrer qu'elle n'est pas laxiste. Et ça, c'est dramatique. Et c'est un cercle vicieux parce que, en vérité, nous, on nous dit toujours que c'est nous qui faisons le jeu de Le Pen. Bon, c'est maintenant Le Pen, voilà, bon. Mais c'est certainement pas les gens qui plaident ni pour la liberté de circulation, ni pour le droit de vote des étrangers, parce que c'est sur le droit de vote qu'on disait à la Ligue des droits de l'homme, notamment, qu'elle faisait le jeu de Le Pen. Ceux qui font le jeu de Le Pen, je pense, c'est ceux qui, depuis des années et des années, maintiennent la même politique et qui laissent donc penser que les étrangers sont un danger. Et donc, nous, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est renverser ça. Mais le problème, c'est qu'on n'y arrive pas, parce que je pense aussi que si y a c'est un cercle vicieux, mais est-ce qu'on pourrait le rendre vertueux? Si les politiques pensaient que l'opinion publique ne pense pas que les étrangers sont un risque et que les migrations sont un risque, eh ben je pense qu'ils feraient autrement. Mais c'est vraiment difficile. Hein. Alors donc, pour répondre à votre question, oui, c'est rassurant qu'il y ait plein de gens en France qui soient sur des positions positives, mais je ne suis pas pour autant optimiste, parce que regardez ce qui se passe même au niveau européen. Quoi. Voilà.
Bonsoir. Quelques remarques. Vous avez commencé par donner un peu l'origine latine du mot précarité. Oui. Je vais regarder dans mon dictionnaire l'origine étymologique de discrimination. Est-ce que c'est lié à crime? Je ne sais pas.
Non.
Bon, d'accord, je regarderai. À propos de vocabulaire, un blanc en Afrique, enfin un français par exemple en Afrique, c'est plutôt un touriste, un expatrié, voire un expert, un coopérant. Alors qu'un noir en France, un africain par exemple en France, c'est un étudiant ou une étudiante, un footballeur peut-être.
Dans le meilleur des cas.
Oui, footballeur dans certains cas. Souvent un travailleur immigré. Alors pourquoi on appelle dans un cas coopérant et puis dans l'autre cas on appelle travailleur immigré, voire un sans-papier. Donc déjà au niveau du vocabulaire, de l'appellation des gens, c'est un peu surprenant. Vous disiez qu'une des spécificités des étrangers, c'est qu'ils ne peuvent pas voter. Ben, moi, j'ai vécu 2 ans dans un pays d'Afrique noire où les gendarmes m'ont dit qu'il faudra aller voter pour, je ne vous dis pas où, un pays d'Afrique centrale qui faisait partie de l'OPEP. Et je dis, mais non, mais moi, je suis volontaire d'une ONG pour 2 ans ici. Si, si, si. Et l'enveloppe avec le bulletin était déjà prêt sur la table. Il fallait juste le poser dans l'urne. Donc c'est vrai que vous avez précisé les conditions de plus ou moins démocratiques. J'ai même voyagé dans le Falcon présidentiel parce que mon voisin était ministre. Et donc l'histoire de discrimination, elle est des fois positive selon notre statut, même si on n'est que volontaire d'une petite ONG. Et puis j'ai un frère qui habite à Amérique centrale, au Salvador, et lui, il a pas eu de problème pour se marier en quelques mois là-bas, et il était amoureux. Et ça fait 17 ans qu'il y est, il a créé une société, donc les papiers sont vite faits. Et dernier point, parce que je pense qu'il faut regarder l'horaire, c'est ça. Vous disiez article sur les droits, sur les traitements inhumains et dégradants. Est-ce que un ministre qui dit qu'il faudrait couper les robinets et enlever les toilettes dans un camp pour que les migrants ne viennent pas, est-ce que c'est pas une expression d'un représentant de l'État qui est un traitement inhumain et dégradant? Et puis dernier point, ben, intéressons-nous à l'origine des matières premières qu'on utilise ici. Et si on veut qu'il y ait de la circulation des matières premières, eh bien dans ce cas-là, pourquoi il y a des entraves à la circulation des personnes ?
Bon, je répondrai pas je répondrai qu'à une seule de vos questions, parce que le reste, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est pas des questions juridiques. Le travailleur migrant, c'est pas, il y a une convention internationale sur les travailleurs migrants, mais le mot travailleur immigré n'est pas un mot juridique. Et voilà. Alors en revanche, sur les traitements inhumains ou dégradants, vous avez raison. La preuve, c'est que dans les contentieux qu'on a fait sur Calais, notamment, on a invoqué le traitement inhumain ou dégradant, c'est-à-dire des gens qu'on empêchait de se laver, qu'on empêchait, etc., etc. Donc ça a été invoqué. Donc c'est quelque chose qu'on peut invoquer dans les contentieux. Alors souvent, on les gagne d'ailleurs, les contentieux, mais alors après, pour les avoir, on les gagne sur des... Bon, on les gagne ponctuellement, si vous voulez. Et puis après, voilà, ça aussi, c'est un peu décevant. Mais vous avez raison. Là, pour le coup, oui. En droit, oui.
Bonjour, bonsoir. Nicolas Potreau, enchanté d'avoir assisté à cette conférence. C'était très, très intéressant et très, très loquace. Du coup, pour revenir sur les mêmes problématiques, mais aborder avec des territoires un peu différents... Enfin, vous avez parlé, on est arrivé un peu en retard, certes, pardon. Mais du coup, vous avez parlé de migration européenne. Qu'en est-il d'une migration intra-européenne? Déjà, d'une part, est-ce qu'il y a des organismes pour ça? Est-ce qu'on est dans des choses en dur par rapport à ça? D'une part. Ensuite, au niveau de la compensation migratoire, ce que j'entends par compensation migratoire, c'est le fait qu'une personne, justement, et c'est lié à tout ce qui est, on va dire, au respect du concept même de famille et en même temps de la famille en général. Qu'est-ce qu'une famille culturelle, finalement? Qu'est-ce qu'une famille aussi en lien avec un territoire? C'est encore autre chose. Ça peut être une solution éventuellement, ou en tout cas un abord pour éventuellement répondre à ça. Et donc cette compensation migratoire, qu'est-ce qu'il en est? Là, on touche vraiment la notion, finalement, de bonheur d'être ici, quoi.
Dans la compensation migratoire, vous avez dit ?
C'est-à-dire que des personnes à partir... Là, je voyais plus ça en chiffres, mais on peut mêler ça à différentes colonnes. Mmh. La compensation migratoire, c'est est-ce que on a un besoin d'immigration, comme c'est par exemple le cas au Canada depuis 3 ans, 4 ans, depuis des années, voilà. Mmh. Et donc, est-ce que justement, on tend la main à l'heure actuelle vers une compensation positive ou négative, et puis qu'est-ce qu'on propose aux gens par ailleurs? Parce que si on voit ça d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue sociétal même, si on veut que la société, à mon sens, hein, puis à votre sens, je n'en doute pas 2 secondes, fonctionne, il faut que les gens soient heureux, et à mon avis, ça participe au bonheur individuel, participe au bonheur commun, bon, blabla. Passons. Et derrière ça, on a le socle culturel environnemental, mais je dirais même, à l'heure actuelle, édificiaire, c'est-à-dire le fait de se rapporter à certains édifices, à certaines choses qui font que on a besoin et on a envie de se sentir heureux pour que chez soi, on se sente heureux. Ce qui est encore autre chose. Je parle là d'un point de vue communautaire, c'est encore différent.
Oui. Bon, d'accord. Je vous laisserai, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce que vous... Ah pardon, vous n'avez pas fini.
Non, c'était voilà. C'était une vraie question. Est-ce que vous avez justement une question par rapport à cette compensation bonheur, Non, pas sur le bonheur, madame. Sur la compensation migratoire. Est-ce que, par exemple, on a fait attention au fait que le chiffre des immigrés fasse monter cette population qui se fixe sur un territoire? Ça, c'est ma question. Et comment on répond à ces besoins?
Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette idée que, de l'utilité donc des migrants, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, alors, disons que c'est quelque chose que nous, en tant que militants, on réfute, que l'on appelle ça l'utilitarisme migratoire, qu'on réfute parce qu'il nous semble que ça va à l'encontre des droits des individus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas subordonner le droit, la possibilité de migrer aux seuls intérêts des pays d'accueil. Alors, c'est vrai que d'une certaine façon, que le Canada, qui fonctionne complètement comme ça, hein, avec de l'immigration choisie à mort, à fond, je voulais dire, de l'immigration choisie, a quand même un aspect ouvert qui peut nous plaire. Mais c'est quand même de l'immigration choisie. En plus, ça a toujours raté l'immigration choisie. Hein. C'est ce que avait prévu Sarkozy. Ça n'a pas du tout marché. Et ça peut d'autant moins marcher qu'on est absolument incapable de savoir quels seront nos besoins. En tout état de cause, militants, mais je pense aussi à beaucoup d'analystes, cette idée d'indexer les migrations sur les intérêts des pays, c'est les fameux quotas aussi hein, qui étaient préconisés à une époque, ne nous semble pas la bonne solution. Voilà. Et sur l'immigration intracommunautaire, enfin vous voulez intra-européenne, ce qui nous a beaucoup frappé, ce qui nous frappe aussi beaucoup, mais ça vous en avez, et justement dans le livre dans un autre livre qu'on avait fait pour une autre journée d'études sur la précarisation du séjour et la dégradation des lois, il y avait une contribution sur le sort des Européens, car ces citoyens de l'Union européenne qui étaient quand même très privilégiés, comme par hasard, à partir du moment où il y a eu parmi eux des pauvres, et en fait, pour le dire plus clairement encore, des Roumains et des Bulgares, et pour le dire plus clairement encore, des Roms. À partir de ce moment-là, les règles, eh bien, elles ont changé. Et il y a cet arrêt du Conseil d'État que nous allons mettre dans notre futur ouvrage sur l'état de droit, un truc extraordinaire où une Roumaine, qui avait fait de la mendicité un peu malhonnête, c'est-à-dire qu'elle vendait, vous savez, elle prétendait vendre les trucs des associations, là. Et c'était pas vrai, en vérité. C'est gravissime, hein, vous êtes d'accord. Eh bien, on décide qu'on peut l'éloigner parce qu'elle représente, alors quels sont les termes, une menace grave pour un intérêt fondamental de la France. Puisque la condition pour qu'on puisse éloigner un citoyen européen, c'est qu'il représente une menace, je crois que le terme c'est une menace grave pour un intérêt fondamental de la nation. Alors, vous voyez, enfin, je veux dire, où est-ce qu'on en arrive, quoi? Donc, les citoyens de l'Union, en fait, il y en a, ils ont quand même encore aujourd'hui des avantages, mais s'ils ont de l'argent, de toute façon, c'était déjà comme ça, parce que la liberté de circulation, c'était pour ceux qui vont travailler ou qui cherchent un travail. Et il a toujours été dit qu'il ne fallait surtout pas que la liberté de circulation serve à aller utiliser les prestations sociales, si vous voulez, du pays d'accueil. Il ne faut pas, si vous voulez, on a peur qu'il y ait du dumping social, ou enfin de l'inverse, que le dumping social, aller chez le plus disant, qui devrait donc donner des prestations sociales à tous les Allemands, les Belges, etc. Voilà. Donc ça a été dit. Mais du coup, aujourd'hui, c'est utilisé. Si quelqu'un n'a pas de ressources, même s'il n'a rien demandé, il y a un risque qu'il fasse peser une charge disproportionnée sur les prestations sociales ou sur le budget social du pays d'accueil. Donc là aussi, on voit une modification tout à fait importante, et c'est là où vous avez raison aussi, c'est-à-dire que le fait d'être citoyen de l'Union européenne, il y en a qui sont plus citoyens que d'autres.
Bien, merci beaucoup. Désolée, on n'a pas le temps pour une dernière question parce qu'il va y avoir une conférence qui suit celle-ci. Je voulais remercier Madame Lochak, Anouche Kunt et Adelina Miranda de Migrinter. Donc rendez-vous le 16 novembre, pour la prochaine conférence. Et je vous signale qu'en 2006 a été édité un ouvrage qui s'appelle « Migrants d'ici et d'ailleurs, du transnational au local » avec Migrinter, justement, que vous pouvez trouver à l'accueil. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Oui, juste avant, un certain nombre d'étudiants doivent rendre des papiers signés, des feuilles d'émargement, tout ça. Donc n'oubliez pas de nous les remettre, s'il vous plaît. Voilà.